VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 2 décembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
En Éthiopie, le gouvernement dit avoir repris aux rebelles le site de Lalibela, classé par l'UNESCO au patrimoine mondial.
Le président du Conseil de sécurité de l'ONU estime que le partenariat militaire Ouganda-RDC contre les groupes armés dans l'est de la RDC est à soutenir.
À Ouagadougou, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, estime essentiel de juger les auteurs d'atteintes aux droits de l'homme au Burkina Faso en proie à des violences djihadistes.
Arrivé hier à Abidjan du président sud-africain Cyril Ramaphosa, pour une visite d'État de 72 heures en Côte d'Ivoire.
Un premier cas du variant Omicron du Covid-19 a été confirmé aux États-Unis chez un individu entièrement vacciné revenant d'Afrique du Sud.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qualifie d'injuste, punitive et inefficace les fermetures de frontières dues à ce variant Omicron.
Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En Éthiopie, les forces pro-gouvernementales ont repris le contrôle du site de Lalibela, classé par l'UNESCO au patrimoine mondial, a annoncé hier le gouvernement. Ce site était passé en août sous le contrôle des rebelles du Tigré. Les détails avec Eric Manirakiza.
Selon un communiqué du service de communication du gouvernement, les forces pro-gouvernementales ont saisi l'aéroport international de Lalibela et la ville historique de Lalibela. Il s'agit d'un site célèbre pour ses églises taillées dans le roc et classé par l'UNESCO patrimoine mondial dans la région voisine d'Amara. Le communiqué ajoute que les forces pro-gouvernementales marchent également sur la ville de Sekota dans la région d'Amara dans le nord de l'Éthiopie. Des combats se seraient étendus à Debrecina, une ville située à moins de 200 km par la route d'Addis Abeba. Hier, les autorités éthiopiennes ont affirmé que les forces pro-gouvernementales avaient repris la localité de Shewarobit, située à environ 220 km de la capitale Addis Abeba, une semaine après que les rebelles tigréens en avaient revendiqué le contrôle. En près de 13 mois, la guerre a fait plusieurs milliers de morts, plus de 2 millions de déplacés et plongé des centaines de milliers d'autres dans des conditions proches de la famine, selon l'ONU.
La police ougandaise a annoncé hier l'arrestation d'un homme ayant des liens avec un groupe armé accusé de nombreuses attaques au lendemain du lancement d'une offensive conjointe des armées ougandaises et congolaises contre ses membres en RDC voisine. Le point avec John Linden.
Le suspect, âgé de 24 ans, a été impliqué dans un attentat à la bombe contre un bus près de la capitale Kampala en octobre. Le porte-parole de la police ougandaise, Fred Enanga, a déclaré mercredi que le suspect, Isma Kiyemba, avait été arrêté alors qu'il préparait une nouvelle attaque. L'Ouganda a été frappé par une série d'attentats à la bombe ces dernières semaines. La police ougandaise a également annoncé la semaine dernière l'arrestation de 4 Somaliens soupçonnés d'avoir apporté un engin explosif présumé dans un hôtel qui devait accueillir le président Yoweri Museveni une semaine après le double attentat perpétré à Kampala. Les forces ougandaises sont déployées dans l'est de la République démocratique du Congo pour combattre les rebelles ADF après le feu vert donné par Kinshasa pour cette opération. Les ADF sont à l'origine une coalition de groupes armés ougandais dont le plus important était composé de musulmans opposés au régime de Yoweri Museveni. Installés depuis 1995 dans l'est de la RDC, ils sont accusés de la mort de milliers de civils dans cette partie du pays.
Pour l'ambassadeur du Niger à l'ONU, Abdou Abari, président en exercice du Conseil de sécurité en décembre, ce partenariat militaire permettant à des troupes ougandaises d'opérer contre des groupes armés dans l'est de la RDC est une initiative qu'il faut soutenir. Il a déclaré hier, ce genre d'union pourrait se faire au niveau de l'Afrique centrale, non pas seulement entre la RDC et l'Ouganda, et prendre exemple sur ce que nous avons fait au Sahel avec le G5 Sahel, a aussi estimé Abdou Abari. Mutualiser nos efforts, avoir une volonté politique d'en découdre avec des groupes terroristes ou armés, c'est une bonne initiative, a-t-il souligné.
Au terme d'une visite de 4 jours au Burkina Faso, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a jugé essentiel hier à Ouagadougou que les auteurs de violations et d'abus soient traduits en justice, quelle que soit leur affiliation, et qu'ils soient tenus responsables de leurs actes. Depuis que ce pays fait face à des violences djihadistes, il y a eu des allégations d'exécutions sommaires, d'enlèvements, de disparitions forcées et de violences sexuelles par des groupes extrémistes violents, des groupes de défense locaux, des volontaires pour la défense de la patrie et les forces de sécurité et de défense nationale, a déclaré Mme Bachelet lors d'une conférence de presse.
Elle s'est également dite très préoccupée par l'augmentation des tensions intercommunautaires au Burkina Faso, en particulier en ce qui concerne la stigmatisation des Peuls, assimilés parfois à des djihadistes, certains d'entre eux ayant rejoint les groupes armés.
Le président Cyril Ramaphosa est arrivé hier soir à Abidjan, où il a été accueilli par son homologue Alassane Ouattara pour une visite d'État de 72 heures qualifiée d'historique. Il s'agit en effet de la première d'un leader sud-africain en Côte d'Ivoire depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre leurs deux pays en 1992. Monsieur Ramaphosa quittera Abidjan vendredi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde hier contre la combinaison toxique de faibles taux de vaccination et de dépistage du Covid-19 face à la menace du variant Omicron qui continue de se propager dans le monde et a contraint de plus en plus de pays à suspendre les voyages vers l'Afrique australe et à instaurer des restrictions préventives. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ces fermetures de frontières sont injustes. Il a appelé à favoriser les tests pour les voyageurs. Mohamedou Oumfa.
Avec un virus vraiment sans frontières, les restrictions de voyage qui isolent un pays ou une région ne sont pas seulement profondément injustes et punitives, elles sont inefficaces, a-t-il asséné lors d'un point de presse en dénonçant un scandale d'une condamnation de l'Afrique pour n'être pas assez vaccinée. Le chef de l'ONU a estimé que les pays ne devraient pas être collectivement punis pour avoir identifié et partagé des informations scientifiques et sanitaires cruciales avec le monde. J'appelle tous les gouvernements à envisager plutôt des tests répétés pour les voyageurs, ainsi que d'autres mesures appropriées et vraiment efficaces, a aussi souligné Antonio Guterres. C'est le seul moyen de réduire le risque de transmission tout en permettant les déplacements et l'engagement économique, a-t-il ajouté. Présent à ses côtés, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a aussi dénoncé la stigmatisation qui ne se justifie pas du continent africain. Pour avoir été transparent, l'ensemble de l'Afrique australe a subi des sanctions, a-t-il déploré. Moins de 6% des Africains sont vaccinés, a-t-il précisé, en appelant à la solidarité internationale pour augmenter leur protection.
Ici aux États-Unis, un premier cas du variant Omicron a été confirmé dans le pays chez un individu revenant d'Afrique du Sud. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités sanitaires américaines. Le point avec Abdourahman Dia.
Cette personne a été testée positive en Californie, ont déclaré les centres de prévention et de lutte contre les maladies dans un communiqué. Cet individu était entièrement vacciné et présentait des symptômes légers en cours d'amélioration, ont-ils ajouté. L'individu testé positif était revenu d'Afrique du Sud le 22 novembre. Le variant Omicron du coronavirus a été classé vendredi comme préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé. Il a déjà été détecté dans une vingtaine de pays après avoir d'abord été identifié en Afrique du Sud. Washington a interdit l'entrée sur le territoire américain aux personnes en provenance de 8 pays d'Afrique australe. Tous les adultes étrangers entrant aux États-Unis doivent être vaccinés, mais aussi avoir été testés négatifs dans les 3 jours avant de prendre l'avion. Les Américains de retour de l'étranger doivent également être testés 3 jours ou 1 jour avant leur départ selon leur statut vaccinal. Le gouvernement américain souhaite réduire le délai à 1 seul jour pour tous, vaccinés ou pas.
La Minute Echo, Nanik Talani.
Le Kenya a reçu 217 millions de dollars de prêts de la Banque africaine de développement pour un projet qui va améliorer les transports routiers dans le nord-est du pays. Nairobi va contribuer pour 6,3 millions de dollars à ce projet qui couvre le corridor Isiolo-Mandera de 740 km et va faciliter l'intégration régionale et le commerce entre le Kenya, la Somalie et l'Éthiopie. Environ 867 000 personnes résident autour de la zone du projet. La Centrafrique et le FMI ont discuté des réformes structurelles qui pourront aider Bondi à relever les défis économiques causés par la crise sécuritaire et le COVID-19 et bénéficier de l'appui budgétaire d'autres partenaires au développement. Le plan appelle à l'amélioration de la gouvernance et au renforcement des recettes intérieures. Sa mise en œuvre permettra la reprise des discussions avec le FMI dans le cadre du programme soutenu par la facilité élargie de crédit au second semestre 2022. Pour terminer, la Côte d'Ivoire et la Guinée ont signé le 30 novembre à Abidjan un contrat d'achat d'énergie portant sur une durée initiale de 3 ans. Abidjan s'engage à vendre à la Guinée 84 gigawatts d'énergie par an à partir de 2021.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Athlétisme pour commencer, le Norvégien Carsten Warholm et la Jamaïcaine Hélène Thompson-Herrera ont été désignés athlètes de l'année 2021. Récompense de leur triomphe aux Jeux Olympiques de Tokyo assorti d'un record du monde pour Warholm. Le Norvégien, 25 ans, aura marqué l'année sur 400 mètres haies avec 2 records du monde et le titre olympique le 3 août 2021 à Tokyo. En effet, en 45 secondes 94, Carsten Warholm a pulvérisé son propre record du monde 46 secondes 70 établi le 1er juillet à Oslo. Carsten Warholm devient le premier Norvégien à recevoir la récompense d'athlète de l'année, décernée depuis 1988. Il succède au recordman du monde de la perche suédois, Armand Duplantis. À 29 ans, Hélène Thompson-Herrera décroche aussi pour la première fois la récompense à l'issue d'une saison 2021 exceptionnelle. Elle a raflé à Tokyo 3 titres olympiques, 100 mètres, 200 mètres et 4 fois 100 mètres. Elle est ainsi devenue la première sprinteuse à réussir ce triplé au JO depuis l'américaine Florence Griffith-Joyner en 1988 à Séoul. La Jamaïcaine a aussi réussi la 2e performance de l'histoire en 10 secondes 54 le 21 août à Eugénie à 5 centièmes seulement du sulfureux et vieux record du monde de Flojo, 10 secondes 49 établi le 16 juillet 1988. Les mondiaux en salle en 2024 se dérouleront à Glasgow en Écosse, a annoncé hier la Fédération internationale d'athlétisme à l'issue de son conseil. Glasgow a accueilli en 2019 les championnats d'Europe indoor. Ce sera la 3e grande compétition internationale en salle à se dérouler sur le territoire de la Grande-Bretagne en l'espace de 6 ans. La ville de Birmingham ayant organisé les mondiaux en 2018, la prochaine édition des championnats du monde est prévue du 18 au 20 mars 2022 à Belgrade. La Fédération internationale d'athlétisme a décidé de porter à 20 le nombre d'athlètes russes autorisés à disputer les grandes compétitions sous drapeau neutre en 2022. Le quota était jusqu'ici limité à 10. Le pays reste suspendu pour avoir mis en place un système de dopage institutionnalisé. La Task Force estime que les conditions n'ont pas été totalement remplies en termes de tests hors compétition avant un événement. L'instance a également jugé insuffisant le travail d'enquête mené par USADA, l'agence russe antidopage, sur les entraîneurs ayant coaché des athlètes dopés.
Malgré la suspension de leur pays en 2015, les athlètes russes peuvent concourir depuis 2016 sous drapeau neutre, sous de strictes conditions de respect des règles antidopage. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Quelques-uns de ces résultats, Milwaukee et Charlotte 127-125, Boston et Philadelphie 88-87, Dallas et la Nouvelle-Orléans 139-107, Houston et Oklahoma City 114-110, Cleveland et Miami, une surprise là, 111-85, Washington et Minnesota 115-107. Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les électeurs gambiens se rendent aux urnes ce samedi pour élire leur président. 6 candidats, dont le président sortant, Adama Barrow, et le principal opposant, Ousseynou Darbo, sont en lice. L'ancien président Yahya Jammeh, qui vit en exil en Guinée équatoriale, a rejeté l'alliance de son parti avec son successeur. Il a plutôt apporté son soutien à Mama Kandé, le candidat du Congrès démocratique gambien. À la veille de la fin de la campagne, Abdourahmane Dia a joint hier à Banjul le journaliste Amadou Barry.
Pendant 3 semaines, les candidats ont sillonné le pays de l'intérieur et là, ils sont tous revenus dans la capitale. Alors, les meetings se multiplient, et puis les candidats jettent leurs dernières forces dans la bataille. Il faut tout faire pour convaincre l'électorat. Et puis, il faut rappeler que le scrutin ici en Gambie, c'est un scrutin à majorité simple. Alors, ça devait entrer dans la réforme constitutionnelle, mais finalement, ce projet de réforme constitutionnelle a été rejeté. Alors donc, ce scrutin est à majorité simple. Alors le climat dans le pays est quand même apaisé, c'est calme, c'est tranquille. Certes, il y a des pics, mais globalement, tout se passe très bien.
Le président Adama Barrow est candidat à sa propre succession. Comment est-ce que sa présidence est appréciée par les Gambiens dans ce contexte? Il a en face des ténors comme Ousseynou Darbo.
Alors, son bilan est mitigé. Économiquement, il n'y a pas eu beaucoup de réalisations durant son magistère. Le pays quand même connaît toujours cette crise née de la fin de règne de Yahya Jammeh. Le chômage est endémique. Il y a la santé, l'éducation. Ce sont des sujets quand même qui restent quand même toujours prioritaires dans ce pays. Le seul peut-être point où on peut dire que c'est un acquis quand même sous son règne, c'est la démocratie quand même et puis une certaine tranquillité dans le pays. Car sous Jammeh, c'était la paranoïa, le règne de la terreur. Et là, par contre, la parole s'est libéralisée. Il y a une multitude de médias qui sont nés sous son magistère. Ça quand même, c'est à son crédit. Il faut dire aussi, dans le pays, il y a quand même aussi certaines améliorations du climat des affaires.
Quels sont les thèmes qui ont été abordés pendant cette campagne et quel impact l'ancien président Yahya Jammeh qui est en exil peut avoir dans l'issue de cette élection?
Beaucoup de thèmes ont été abordés durant cette campagne, mais il faut dire que dans ce pays, tout reste prioritaire, la santé, l'éducation, l'emploi, les infrastructures. Alors, quant à la capacité d'influence du président sortant, elle est relative de plus en plus. Alors, le président était quand même rangé aux oubliettes. C'est son successeur Adama Barrow qui l'a un peu, entre guillemets, ressuscité, parce que nouant une alliance avec son parti, il a fait volte-face pour dire qu'il désapprouve cette alliance. Alors aujourd'hui, il a adoubé Mama Kandé, un opposant qui était venu quand même troisième à la dernière présidentielle. Il ne cesse de lancer des messages, des piques à son successeur durant le meeting. Ce qui se passe, c'est que le candidat en question, Mama Kandé, l'appelle et on l'entend par téléphone où il harangue les populations.
C'était le journaliste Amadou Barry, joint hier à Banjul.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Sénégal, les transporteurs ont décrété une grève de 48 heures pour protester contre, entre autres, ce qu'ils appellent les innombrables abus des forces de l'ordre. Cette grève, qui concerne le transport public et aussi le transport privé, a fortement handicapé les usagers dans la capitale sénégalaise. De Dakar, notre correspondant Sedina Abagui.
Pas d'embouteillage, pas de klaxons, pas de cris d'apprenti de car rapide, ni d'échange houleux entre taximan et chauffeur de car appelé aussi Ndiaga Ndiaye. Les routes de Dakar sont orphelines du traditionnel grabuge qui rythme les journées. Des étudiants comme Mohamed Ba ont été obligés de renoncer à leur cours.
C'est vraiment difficile parce qu'on ne peut pas vaquer à nos occupations. Nous devons faire cours mais on l'a annulé. Et cela m'attriste vraiment. Oui, cela va impacter parce qu'on a poussé tous nos cours. Hein. On a poussé tous nos cours et vraiment c'est très difficile de vaquer à ces les occupations sans monter à ces bus et autres. Et vraiment, on demande à l'État de remédier à cela.
L'une des autres conséquences de cette crise est la flambée des prix à cause de la forte demande. Déjà que tous les prix des denrées ont fortement augmenté, vouloir payer encore plus cher pour aller au travail, c'est impensable pour Pape Maguette Sek, qui habite en banlieue.
Avec cette grève, si tu quittes la banlieue, par exemple, le prix du transport entre Guédiouaï et Liberté 6 devient à la limite indécent, car les rares véhicules qui circulent font grimper les prix. C'est difficile à supporter, donc on préfère rater une ou deux journées de travail avec toutes les conséquences et pénalités que cela implique. Il est préférable que les transporteurs arrêtent cette grève.
Directement interpellés par les usagers, les transporteurs estiment que l'État est le seul responsable de cette situation, car les autorités refusent de prêter une oreille attentive à leurs problèmes.
Parce que les nids taxés d'admettre.
Les tracasseries policières sont devenues trop pour nous, vraiment. Les policiers vont jusqu'à nous demander des papiers non essentiels, juste pour nous soutirer de l'argent. Et le plus dur pour nous, c'est que les autorités n'ont pas réagi à nos nombreuses sollicitations. Il y a également les transports irréguliers. Tu vois, un retraité qui va prendre son véhicule pour faire la concurrence aux transporteurs en règle. Pour nous, il est important que l'État réagisse.
Face au mutisme des autorités, les syndicats des transports ont donc décidé de mettre à exécution leur menace de grève dans le public et dans le privé. Ils espèrent qu'avec l'impact de leur inactivité, les autorités vont rompre le silence et agir. Sedina Abagui à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
À la recherche d'une vie meilleure, de nombreux migrants traversent l'Atlantique vers l'Europe dans ce que d'aucuns appellent la frontière la plus meurtrière du monde. Malgré les risques, l'Organisation internationale pour les migrations affirme que le nombre de personnes traversant la Méditerranée a doublé au cours du premier semestre de cette année pour atteindre environ 77 000. Reportage de Ruud Elmendorp à bord de l'Ocean King ou l'Océan Viking, un navire de sauvetage en mer Méditerranée. Récit de Ginny Kapumbu-Villa.
Un petit pas pour un migrant, mais un pas de géant vers une vie meilleure, avec tous les dangers que pose la Méditerranée. Traversée d'un bateau à la dérive de nuit vers un navire de sauvetage européen, dépêché par SOS Méditerranée. Pour cela, les migrants mettent leur vie en danger et leur condition en mer peut être dévastatrice, explique ce sauveteur se présentant comme Tanguy.
Nous avons des opérations avec des personnes blessées par balles. Parfois, nous avons des gens qui sont déjà morts pour cause d'étouffement ou autre. Donc, c'est très différent à chaque fois.
À bord de l'océan Viking, les rescapés reçoivent des vêtements et un endroit pour dormir. Comme Salim, un fabricant de rideaux de 40 ans, originaire de Syrie, qui a fui son pays pour empêcher son fils d'être enrôlé dans l'armée.
Je viens avec mon père de Syrie parce que je pourrais aller à la guerre après 18 ans. Alors, je viens avec mon père en passant par la Libye et de la Libye pour aller en Italie.
Le père et le fils et les autres plus de 300 migrants secourus passent leur temps pendant la mission de sauvetage, tout en endurant des rencontres avec les gardes-côtes libyens connu pour amener les migrants en Libye, explique Anita, coordinatrice secours de SOS Méditerranée.
Je pense qu'ils viennent et essaient de nous intimider, de nous empêcher de nous diriger vers les eaux et de toute façon, nous n'irions jamais dans les eaux libyennes.
L'Organisation internationale pour les migrations attribue l'augmentation de nombre de nouveaux arrivants à la détérioration de la situation des droits humains en Libye. Des migrants de toute l'Afrique cherchent la sécurité en Europe, comme Annabelle Phillips, 32
Une sécurité de vie que je n'ai pas pu obtenir au Nigeria, oui, et pour mon enfant, car au Nigeria, il n'y a pas de sécurité comme ici.
L'autorisation pour le reste des migrants de débarquer arrive à Augusta, en Sicile. Une fois sur la terre ferme, un autre voyage commence. Obtenir l'asile peut prendre des années et les malchanceux peuvent être envoyés ou disparaître dans la difficile économie informelle de l'Italie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le COVID-19 a fait chuter le dépistage du VIH de 22% dans le monde, selon le rapport du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Cette tendance est réelle au Cameroun et oblige des associations de prise en charge des patients du VIH à se redéployer sur le terrain. Reportage à Yaoundé de notre correspondant Emmanuel Juntap, récit de Lionel Gahima.
Ce jour, l'équipe de l'association Humanity First entame une campagne de sensibilisation sur le dépistage du VIH. Le point de chute est un marché de Yaoundé. Au bout d'une heure, une dizaine de personnes acceptent à se faire dépister. Senghor Roberta Milène est père éducateur de Humanity First Cameroun Plus.
Nous avons choisi particulièrement ici parce que c'est un endroit où nous trouvons plus les UDI. UDI, ça veut dire les usagers de drogue. Et comme nous savons tous que le sexe n'est pas le seul moyen pour pouvoir contracter le VIH, il y a aussi un passage par des sirènes, par des lames et tout. C'est pourquoi nous avons choisi cet endroit pour venir faire le dépistage.
L'association Humanity First Cameroun œuvre pour la rupture de la chaîne de transmission du VIH. Dès le mois de mars 2020, ces activités de dépistage ont été impactées par la pandémie du COVID-19. Orlish Matt est responsable du suivi évaluation Humanity First.
Moi, les statistiques étaient très bas pour l'année dernière. Enfin, lorsque la COVID était encore à son apogée, c'était très bas, allant de la mobilisation jusqu'à même l'initiation aux antirétroviraux et pour tout autre service, c'était vraiment très bas. Je dirais ça a drastiquement baissé de 50%.
Brice Bissot est aussi père éducateur de Humanity First Cameroun Plus.
Pareil pour nous n'était plus comme on avait toujours l'habitude de faire parce qu'il fallait rassembler un certain nombre de personnes pour mobiliser ou bien sensibiliser. Donc, du coup, on a eu un frein, ce qui a fait en sorte que le travail s'est un peu retardé.
C'est aussi de l'avis de Michel Etemé qui est conseiller psychosocial à Humanity First.
Au niveau des personnes qui viennent prendre leurs médicaments ici à l'OBC, que ce soit même en formation sanitaire, il y a eu une chute, on a constaté une chute vu la COVID et d'autres qui disaient avec des préjugés que c'était déjà une forme de COVID, des médicaments COVID qu'on donnait aux gens.
Responsable de la chaîne de prise en charge des patients atteints du VIH et des maladies opportunistes, Sophie Ngomfo, médecin généraliste, reçoit aujourd'hui en moyenne 7 patients contre 2 en pleine pandémie de COVID.
À cette période, les gens avaient peur de plus de la COVID. Quand tu parlais du VIH, les gens n'étaient pas trop intéressés. C'était uniquement la COVID. Quand on allait vers les gens, ils demandaient que je veux plutôt faire le test de COVID, je veux savoir mon statut COVID plus que le statut VIH. Ça n'intéressait pas beaucoup les gens. Maintenant, comme les choses sont un peu plus en train de se vulgariser, les gens ont accès aux tests, les gens ont fait des mesures de prévention, la vaccination qui est venue beaucoup aider aussi.
L'an dernier, plus de 496 000 personnes vivaient avec le VIH au Cameroun pour un taux de prévalence de 2,7%. Le COVID a, pour sa part, fait plus de 1 700 morts depuis mars 2020.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sédoudia et Michel Joseph, qui étaient également à la mise en onde. À la console, Patrick Dea. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.